Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, dit un cantique du XIXe siècle que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être l'air dans l'oreille. Et cette sentence résume assez bien la façon dont la piété populaire a transformé ce mois de mai en mois de Marie. Si l'on s'était d'abord basé sur la liturgie, plusieurs autres mois auraient pu revendiquer le privilège de devenir le mois de Marie. D'abord le mois de décembre, tout illuminé avant Noël par la grande fête de l'Immaculée Conception. Ou bien le mois de mars, qui célèbre l'événement central, l'événement décisif, le plus important de la vie de Marie, puisque c'est celui par lequel elle est devenue mère de Dieu, le jour de l'Annonciation, ou bien encore le mois d'août, centré sur le triomphe qui clôt la vie terrestre de la Sainte Vierge, sa glorieuse Assomption dans les cieux, sans compter le 2 février, le 8 septembre, le 7 octobre, et bon nombre d'autres fêtes moins solennelles qui jalonnent toute l'année liturgique. Alors vous me direz peut-être, oui, au mois de mai, il y a quand même, au moins dans certains diocèses, la fête de Marie Médiatrice le 8 mai et celle de Marie Reine le 31. Certes, mais ce sont des institutions récentes et relativement discrètes qui ne peuvent rivaliser d'importance avec le 8 décembre ou le 15 août. Alors, pourquoi le mois de mai ? Pourquoi ? Pourquoi autant mes frères demandaient à un petit enfant, pourquoi au printemps ? Il aime cueillir des fleurs pour les apporter à sa maman. C'est le même mouvement tout spontané, le même élan d'amour filial qui a poussé le peuple chrétien à consacrer à sa mère du ciel le mois qui voit habituellement dans nos régions la victoire définitive du printemps sur l'hiver et le triomphe des fleurs. Mais ces élans de piété populaire ont été très sévèrement critiqués au siècle dernier par les théologiens progressistes qui ont préparé Vatican II. Ils ne pouvaient pas, ou du moins ils n'osaient pas, s'attaquer aux grandes fêtes liturgiques établies par l'Église, mais ils dénonçaient de façon acerbe ces dévotions populaires qui tendaient, disaient-ils, à la superstition et à la mariolâtrie. Derrière leurs critiques, on retrouvait au fond celle des protestants qui ne peuvent supporter la dévotion à la Sainte Vierge. Et ce sont ces protestants qui imposaient leur vue aux théologiens dits catholiques dans les congrès et les conventicules écuméniques. En particulier, il y avait un adage qui les agaçait très fort. C'était la sentence catholique « De Maria nunquam satis ». De Marie, on ne dira jamais assez. Avec une telle devise, disait-il, toutes les dérives sont permises. Votre culte n'est plus vraiment centré sur le seul Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, comme il devrait l'être, il est centré sur Marie. Vous êtes donc des idolâtres. Que faut-il penser, mes bien chers frères, de ces accusations ? Est-il vrai que le culte de la Sainte Vierge soit finalement quelque chose d'un peu dangereux, qu'il faille prudemment limiter pour ne pas risquer de nous détourner de notre Sauveur? Ou bien, à l'inverse, devons-nous dire que la dévotion à Marie est toujours bonne et qu'il est absolument impossible d'errer quand on l'invoque? La question n'est pas nouvelle. Et elle a été magistralement résolue par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans un petit livre que ce mois de Marie devrait nous inciter à lire ou à relire avec grand fruit, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. En un sens, ce titre dit tout, car il distingue la vraie dévotion à la Sainte Vierge de toutes ses contrefaçons. Et dès qu'on a fait cette distinction, aussitôt la réponse est évidente. Dans la vraie dévotion à la Sainte Vierge, on ne fera jamais assez. De Maria nunquam satis. Parce que la Vierge Marie est précisément celle par qui Jésus vient à nous. Et on ne pourra donc jamais s'en approcher véritablement sans s'approcher de Jésus. Marie n'est jamais sans Jésus et Jésus au ciel n'agit jamais sans Marie. Pourtant, il convient de rester prudent, non vis-à-vis de la dévotion envers Marie, qui de soi ne peut jamais être excessive, mais envers les fausses dévotions. Car, nous dit Saint Louis-Marie, le diable, comme un faux monnayeur et un trompeur fin et expérimenté, a déjà tant trompé et damné d'âme par une fausse dévotion à la très sainte Vierge, qu'il se sert tous les jours de son expérience diabolique pour en damner beaucoup d'autres, en les amusant et endormant dans le péché, sous prétexte de quelques prières maldites et de quelques pratiques extérieures qu'il leur inspire. Saint Louis-Marie distingue alors sept catégories de faux dévots. On ne va pas toutes les énumérer ici, on peut simplement nommer les dévots hypocrites qui ne font que feindre la dévotion, les dévots extérieurs qui ne la font consister que dans des pratiques extérieures sans voir que l'essentiel est à l'intérieur du cœur, ou bien les dévots présomptueux qui voit la dévotion à Marie comme une sorte d'assurance bon marché contre la damnation, sans qu'on ait besoin de faire aucun effort pour lutter contre le péché. Et Saint Louis-Marie écrit à ce sujet « Rien n'est si damnable dans le christianisme que cette présomption diabolique, car peut-on dire avec vérité qu'on aime et qu'on honore la Sainte Vierge lorsque par ses péchés on pique, on perce, on crucifie et on outrage impitoyablement Jésus-Christ son Fils. » Et il continue. « J'avoue que pour être vraiment dévot à la Sainte Vierge, il n'est pas absolument nécessaire d'être si saint qu'on évite tout péché, quoi qu'il le fût à souhaiter. Mais il faut du moins qu'on remarque bien ce que je vais dire. Premièrement, être dans une sincère résolution d'éviter au moins tout péché mortel qui outrage la mère aussi bien que le fils. Secondement, se faire violence pour éviter le péché. Troisièmement, alors, se mettre des confréries, réciter le chapelet ou le Saint-Rosaire ou d'autres prières, ou jeûner le samedi en l'honneur de Notre-Dame, etc. Et il conclut au sujet de ses pratiques. Cela est merveilleusement utile à la conversion d'un pécheur, même endurci. Et si mon lecteur est tel, et quand il aurait un pied dans l'abîme, je le lui conseille. Mais, à condition qu'il ne pratiquera ses bonnes œuvres que dans l'intention d'obtenir de Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, la grâce de la contrition et du pardon de ses péchés, et de vaincre ses mauvaises habitudes, et non pas pour demeurer paisiblement dans l'état du péché, contre les remords de sa conscience, l'exemple de Jésus-Christ et des saints, et les maximes du Saint-Évangile. Mais si Saint Louis-Marie prend le temps de détailler les sept catégories de fausses dévotions à la Sainte Vierge, il s'attaque surtout, bien sûr, à expliquer ce qu'est la vraie dévotion. Il en montre la nécessité en général et particulièrement dans les derniers temps, car, dit-il, le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, mais riche en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. La parfaite dévotion à Marie, pour Saint Louis-Marie de Gommonfort, celle qui contribue le plus à la gloire de Dieu et celle qui nous assure un chemin assuré vers le ciel, c'est la consécration à Marie, ou plus exactement, la consécration à Jésus par Marie, qui n'est pas seulement un acte passager, mais une véritable façon de vivre qui nous soumet à chaque instant à Jésus et Marie. Saint Louis-Marie en fournit le mode d'emploi détaillé qui nous mène à faire tout par Marie, avec Marie et en Marie, pour nous incorporer parfaitement à notre Sauveur Jésus-Christ. Et sans doute, cette parfaite dévotion est le but à atteindre par chacun d'entre nous. Pourtant, elle n'est que l'aboutissement d'une progression. Et avant d'atteindre le but, il faut faire les étapes précédentes. Aussi durant ce mois de Marie, et au moment où nous le commençons, nous pouvons nous demander où en sommes-nous. D'abord, si certains d'entre nous ont fait la consécration à Marie, est-ce que nous vivons de cette consécration? Et c'est le moment de relire ce qu'en dit Saint Louis-Marie et de bien reprendre nos résolutions pour que ça ne soit pas seulement un acte qui a été fait dans le passé, mais une façon de vivre continuelle. Renouvelons nos bonnes habitudes de ce point de vue-là. Sinon, comment progresser dans cette direction? Il est important que la dévotion à Marie soit une dévotion filiale et aussi une dévotion personnelle. De ce point de vue-là, nous pouvons nous demander qu'est-ce que j'offre personnellement, qu'est-ce que je vais offrir personnellement à la Sainte Vierge durant ce mois de mai. Il y a peut-être dans la communauté à laquelle j'appartiens, ma famille, par exemple, des prières que nous allons faire en commun en l'honneur du mois de Marie, et c'est très bien. Mais il serait bon que moi, personnellement, j'ajoute quelque chose qui vienne de moi pour montrer à ma façon, à la Sainte Vierge, qu'elle est ma mère et que je l'honore comme telle. Le grand philosophe Louis Junier, dont plusieurs livres sont en vente ici à la librairie, avait, paraît-il, une grande dévotion à ce mois de Marie et il tenait à aller faire lui-même un bouquet à la Sainte Vierge qu'il entretenait pendant tout le mois de Marie devant une statue de la Sainte Vierge qu'il avait dans son bureau. Alors évidemment, ça n'est pas la dévotion à Marie qui est imposée à tous, chacun peut trouver ses façons de faire, mais ces petites manifestations de dévotion, soit par des gestes comme des bouquets ou bien des prières, je décide de réciter telle prière à Marie, que ce soit ses litanies, l'Ave Maristella ou même une prière que j'aurais moi-même composée pour dire à la Sainte Vierge, avec mes mots à moi, ce que je veux lui dire, mais que je lui répéterai pendant tout le mois de mai. Toutes ces petites marques d'affection envers la Sainte Vierge sont importantes. Et si nous le faisons, la Sainte Vierge elle-même nous aidera à progresser comme une bonne mère, progresser dans cette vraie dévotion. Il y a pour cela diverses pratiques, la récitation du chapelet, bien sûr, le port du scapulaire de la Sainte Vierge, et puis ensuite, mais cela demande une certaine préparation, cette consécration à la Sainte Vierge selon la méthode de Saint Louis-Marie. Bien évidemment, cette dévotion à la Sainte Vierge ne nous détournera pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, elle nous aidera, par exemple, à bien faire nos communions, à bien nous unir à notre Seigneur, parce que nous nous serons préparés à la communion avec la Sainte Vierge. C'est également la Sainte Vierge qui peut nous aider à bien nous préparer à la Pentecôte. Vous avez remarqué comment, dans l'Évangile d'aujourd'hui, la Sainte Église nous prépare déjà à la venue du Saint-Esprit. Elle nous fait entendre les paroles de Jésus qui annonce « Il est heureux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, et c'est lui qui viendra poursuivre mon œuvre à l'intérieur d'entre vous. » Or, qui va nous aider à bien recevoir le Saint-Esprit, sinon la Sainte Vierge qui était avec les apôtres au moment où il leur a été donné. Donc, c'est le début du mois de Marie. Si nous n'avons pas encore pris de résolution particulière, faisons-le dès aujourd'hui, dès maintenant, avant de quitter cette église. Prenons une résolution sur la façon dont nous allons mieux honorer la Sainte Vierge et ainsi mieux honorer son Fils, ainsi mieux rendre gloire à Dieu et mieux nous établir sur la voie du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.